Société avec Nick Payne.
Bonjour, chers auditeurs. Très heureux d'être au microphone pour une nouvelle édition de Société. Beaucoup de matière cette semaine. Nous sommes dans les sujets à caractère, ma foi, québécois ou nationaliste, ou peut-être même indépendantiste, devrais-je dire, puisque nous recevons dans un instant le nouveau chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, élu hier soir après 3 tours de vote qu'il a tous dominés. On y revient plus en détail dans un instant. Nous discuterons aussi avec Frédéric Bastien, qui est un candidat défait. C'était le candidat, justement, nationaliste, le candidat des réformes constitutionnelles dans cette course au Parti québécois. Frédéric Bastien sera avec nous un peu plus tard. Et nous parlons aussi, alors là, ça va vous faire changement. On va parler de sport, de hockey, du rapport entre le sport et l'identité nationale, entre le sport et la politique. Vous savez que cette semaine, le repêchage du Canadien de Montréal pour une énième fois a beaucoup fait jaser par l'absence de joueurs québécois repêchés par le Canadien. C'est comme ça à chaque année. Soit il n'y en a pas, soit il y en a très peu. Là, on dit que depuis 2014, il y en a eu à toute fin pratique 0, je pense. Je ne suis pas un expert, mais on en discutera avec Robert Bob Sirois. Vous vous souviendrez peut-être de ce joueur, cet ailier droit des Capitals de Washington qui a écrit, après sa carrière, un livre fort intéressant il y a quelques années sur le traitement réservé aux joueurs francophones dans la Ligue nationale. Il revient ces jours-ci avec un livre qui s'appelle « Pour une équipe nationale du Québec ». Bref, nous le recevons vers la fin de l'émission. Et puis, bien sûr, à travers tout ça, les commentaires de nos fidèles Frédéric Bérard, ainsi que Frédéric Lapointe et peut-être Steve Fortin si on arrive à le sortir des bois. Il est sur une urgence familiale en ce moment. Mais allons tout de suite jaser quelques instants avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Bonjour.
Ah, attendez, j'ai... Est-ce que vous êtes là? Oui.
Oui, je suis là.
Oui, bonjour, pardon. Mauvais bouton, bon, semble-t-il. Ben, d'abord, félicitations.
Ben, merci beaucoup.
Vous êtes couché tard?
Oui.
Oui?
Oui, en fait, pour dire la vérité... Ça a été 9 mois de course avec des bénévoles qui n'ont jamais lâché. Puis, on ne s'est pas empêché de faire la fête un peu hier, évidemment en version pandémie, là, c'est-à-dire qu'on était sur Zoom. Mais on a quand même ri, on a eu du fun. Puis, donc, je me suis couché quand même un peu tard. Et ce matin, j'ai pas de fatigue pour autant parce que c'est tellement euphorisant, c'est tellement énergisant. C'est tellement un privilège de reprendre cette quête, cette mission. De donner aux Québécois la normalité, de leur donner un pays. Que ce matin, je donne des entrevues, je suis sur le téléphone constamment, puis je ressens aucune fatigue. Pourtant, ça fait 9 mois de course. 9 mois de course en politique, là, c'est énorme, c'est du jamais vu, en fait. Donc, j'ai hâte à la suite des choses.
La course à la chefferie en temps de pandémie, bien sûr. Là, vous avez été interrompu par deux vagues à toute fin pratique.
Hein?
Oui, comme vous le disiez vous-même dans votre discours hier. Allons tout de suite dans la politique, un peu plus concrètement, même si vous êtes sur le lendemain de veille zoomesque, on va dire ça comme ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef extra-parlementaire, je cite votre propre terme, que vous êtes désormais, va agir comment? Comment ça se traduit? Je vous pose cette question-là parce que au-delà de l'idée qu'on se fait de ça, c'est-à-dire de l'homme sur le terrain beaucoup, qui a un peu plus de temps pour être sur le terrain, c'est aussi l'argument que vous avez employé durant la course, il y a quand même le spectre de... Alors là, je ne vous demanderai pas si vous avez eu une jasette avec Martine Ouellette, mais on a vu à travers son expérience à elle qu'il peut être difficile pour un chef qui n'est pas élu, qui ne fait pas partie du caucus, d'asseoir son leadership, de gagner le respect de ses collègues du caucus qui, eux, ont subi le baptême de feu, ils ont été élus devant la population et non pas dans une course à la direction. Et qui plus est, c'est peut-être encore plus difficile lorsque vous êtes... dans ce cas-ci, un chef du Parti québécois qui arrive avec l'idée de changer l'orientation de façon substantielle. Vous voulez remettre, et vous en avez fait la preuve là, en commençant à nous parler ce midi, vous voulez remettre l'indépendance vraiment au cœur de l'action du Parti québécois. Vous voulez aller en élection en disant « Vous votez pour nous parce que vous votez pour l'indépendance du Québec ». Pensez-vous être capable de rallier le caucus à cette idée-là?
Je pense que oui, parce qu'il y a toute la légitimité de 2 exercices démocratiques. Le premier, c'est le congrès de refondation. Ça a été moins médiatisé, mais ceux qui connaissent le parti savent que les membres se sont réunis, puis ils ont donné des orientations au parti avant que le chef soit choisi. Ensuite, il y a eu une course de 9 mois. Ça veut dire que les membres, là, ils ont eu la chance d'entendre les idées de chaque candidat et ils ont fait un choix. Et donc, cette orientation de nationalisme assumé, de détermination et de clarté dans le fait qu'on veut que le pays arrive puis qu'un vote pour le PQ, c'est un vote qui déclenche le processus d'indépendance, ça a été réfléchi. Puis à 2 reprises, ça a été entériné démocratiquement. Puis ça, c'est beaucoup de légitimité. Mmh. Évidemment, quand vous me demandez concrètement qu'est-ce que je vais faire, je vais passer mon temps à Québec, là. On se le cachera pas. Pour moi, c'est super important. Puis à date, là, je vous le dis informellement, mais les échanges que j'ai avec les députés, c'est super positif.
Alors là, vous vous installez là-bas ou vous allez faire beaucoup de routes?
Je pense m'installer proche de Québec parce que c'est une priorité pour moi. Qu'on ait de la cohésion et de la cohérence. Dans ce que j'ai écrit d'ailleurs sur le Parti québécois dans mon rapport Oser repenser le PQ, il y a toute la question de l'incohérence des positions, la difficulté que la population avait à suivre un peu le PQ, à savoir « mais vous êtes qui ?» Et je pense que dans le nouveau Parti québécois, dans le nouveau cycle qu'on amorce, la clarté, la transparence puis la cohérence, c'est vraiment des qualités là, qu'on doit respecter en tout temps. Puis comme chef, c'est ça que je veux. Donc, je dois être proche des députés, puis il faut le dire, un avantage, c'est que c'est une excellente équipe de députés. Ils ne sont pas nombreux, mais de l'avis de tous, le travail parlementaire fait par le Parti québécois, c'est pertinent, c'est intelligent, c'est fouillé. Donc, on a une force là. L'important, c'est que je sois proche pour qu'il se crée des synergies, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais en même temps, les débats, on les a eus. Le temps maintenant est limité devant nous par rapport aux élections de 2022. Puis tout le monde va se dire, puis c'est ça les échanges que j'ai en ce moment, là. On a un parti à rebâtir, à relancer, et là, nos efforts doivent être concertés parce que le cap, c'est 2022, ça arrive vite, puis on veut livrer la meilleure performance, on veut inspirer les gens, donc on va, à mon avis, facilement travailler dans le même sens.
Alors, parlons-en de 2022, puis pour y arriver, je reviens un instant sur la première question. Vous savez, parce que vous en avez été vous-même, qu'il y a une pensée tout de même qui est encore très fortement, solidement installée au sein du mouvement, disons, indépendantiste élargi, là, au péquiste et même au-delà, à l'effet que aller devant les Québécois en disant « nous demandons le mandat de réaliser ou d'enclencher le processus de réalisation de l'indépendance », pour employer vos termes, c'est déraisonnable. Les Québécois veulent pas entendre parler de ça. Il faut y aller mollo là-dessus. Bon, enfin, vous connaissez le discours. Vous l'avez même porté vous-même pendant un certain temps. Arrivé en 2022, là, supposons que la CAQ est menacée dans son maintien au pouvoir par les libéraux. Vous allez vous faire dire, il faut faire attention, pas trop nuire à ceux qui ont les meilleures chances de battre le Parti libéral. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre l'indépendance de côté une fois de plus? Qu'est-ce que vous allez dire?
Non, mais c'est ça. Là, les choix ont été faits. Et je pense que l'indépendance, c'est le moteur, c'est la locomotive de nos intentions de vote et non pas le problème qui peut nuire à nos intentions de vote. Ça va être clair, ça va être constant, ça va être cohérent. Et ce que tu disais au début de ta question, c'est en fait, c'est le narratif médiatique des intervenants qui travaillent contre le projet d'indépendance.
Donc, c'était ça à l'origine, hein, dans les pages du journal La Presse, et puis chez les fédéralistes, chez Jean... des gens comme Jean-François Lisée ont beaucoup dit ça aussi. Oui, mais on a beaucoup entendu ça. Oui, vous avez raison. Et puis, vous allez entendre beaucoup, beaucoup ça. Préparez-vous à une vague de cynisme et de sarcasme, sans doute. D'ailleurs, ça devrait être vu comme une bonne nouvelle par quelqu'un qui veut se tenir debout. Ça veut dire que vous dérangez vos adversaires. Mais vous avez eu, on a bien entendu au sein même du Parti québécois ce discours-là aussi pendant des années. Des fois, dans des formules un peu doucereuses, mais c'est ça que ça voulait dire. Donc,
oui, mais avec la nuance suivante. Mm-hmm. Qui est importante. Parce que le contexte en politique, j'apprends le métier de politicien, plus je prends de l'expérience, plus je me rends compte que des fois, les gens sous-estiment à quel point les contextes changent puis que c'est normal de s'adapter à certains contextes. En 2018, c'était certain que le sujet allait être comment se débarrasser des libéraux et c'était très difficile d'imaginer de l'espace pour parler d'avenir quand, de l'avis de la population, puis la population avait raison, le feu était pris, littéralement. La corruption partout, les institutions qui ne fonctionnent pas, il fallait se débarrasser des libéraux. Donc, il y avait là un contexte où, réellement, la question, peu importe ce qu'on allait faire, la question allait être qui peut remplacer les libéraux. Puis, ce que les militants, ce que quelqu'un comme moi, ce que bien des gens ont fait comme exercice après 2018, c'est de dire, ouais, mais là, vraiment un contexte maintenant qui nous oblige à reporter notre raison d'être. Puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis il faut recommencer à avoir du fun.
Mais il pourrait comment y en avoir. C'est pour ça que je vous posais la question. Supposons que le schéma se reproduit. Il faut tenir les libéraux à distance parce que c'est quand même sans doute votre point de vue sur eux. Et là, est-ce que l'indépendance peut devenir une nuisance? C'est un peu l'analyse que vous faisiez ou que vous semblez dire que vous faisiez pour 2018.
Ce serait une erreur parce que ce serait une erreur au niveau de la cohérence. Il y a eu une course à la chefferie en 2016. La personne qui a gagné disait que la question de l'urne, ce serait se débarrasser des libéraux. Il y avait un plan en deux étapes. Les gens ont voté pour ça. C'est correct. On est un parti démocratique, puis les gens ont voté pour ça. Mais là, les gens ont voté deux fois pour qu'on soit clair, cohérent, transparent sur le fait que c'est légitime de vouloir un pays, puis que c'est un projet de société qui est nécessaire, puis qu'on veut porter de manière franche et directe. Écoutez-moi, sur toutes les plateformes aujourd'hui, c'est exactement ça que je fais, et je vois aucune raison de déroger à ce plan de match-là, parce que lorsqu'on change d'idée en cours de route, ben là, on perd de la cohérence, les gens, justement, ne sont plus capables de suivre. Donc, je pense qu'il y a là une belle occasion de revenir aux sources. Je parle beaucoup d'esprit d'aventure, là, mais c'était ça, le parti à la base, les années 70, le parti n'avait pas des moyens limités, était victime de beaucoup de sarcasme et tout ça, mais pour autant a atteint son résultat avec la persévérance, a atteint des résultats très impressionnants. Il y a eu un référendum qui a découlé de cette période-là, même chose Parizeau. Il a jamais reculé devant tous les indicateurs qui disaient que là, les sondages, le contexte, fini, etc.
Ah ben non, c'était même, on dit parfois que c'était même, il allait même à l'encontre de la volonté de ses proches au sein même du parti à certaines occasions, notamment quand il a décidé
pas,
de...
Mais je sens pas dans le parti en ce moment d'hésitation parce que le débat a eu lieu puis parce que les gens, à juste titre, comprennent que notre raison d'être, c'est de faire l'indépendance. Puis si on n'est pas capable d'assumer notre raison d'être, c'est parce qu'on n'assume pas notre existence. On ne peut pas demander aux gens de nous suivre.
Et c'est peut-être un peu plus difficile de ratisser de gauche à droite, comme vous entendez le faire, sans doute, dans ce cas-là.
Donc la réflexion, elle est faite. Puis moi, j'ai proposé ce que j'ai proposé durant la course, puis les gens n'auront pas de surprise. Ce que je vais livrer, c'est ce qu'on a dit qu'on ferait durant la course, puis ça va être le même style, la même approche, et je pense qu'on va faire des gains rapidement parce que des gens qui sont d'accord, puis qui nous écoutent, puis qui disent en fait ils ont raison, il y en a beaucoup, puis on va les coaliser tout simplement, on va les mobiliser au sein du parti, ce qui va amener de nouvelles personnes également.
Avant de vous laisser aller, essayez de vous reposer, Paul Saint-Pierre Plamondon, pardon, juste un instant d'enjeux plus très quotidiens dans des enjeux de l'œuvre. On vous a entendu un peu hier sur le racisme systémique, le fameux racisme systémique. Il m'a semblé que vous aviez une position intéressante là-dessus. Vous avez parlé, dans le cas des Autochtones, de racisme institutionnel. Êtes-vous aussi un peu critique ou prenez-vous un certain recul par rapport à l'expression même de racisme systémique?
Oui, j'ai été clair durant la course à ce niveau-là. Donc, le racisme, il existe au Québec, là. Puis il faut lutter contre le racisme. En fait, je pense que j'étais le seul candidat à avoir un plan de lutte au racisme durant la course. Le racisme, par contre, il faut qu'il soit vérifiable, il faut qu'il soit, qu'il vienne de quelque part ou de quelqu'un. Donc, il peut être individuel. Il peut venir d'une institution. Puis la loi sur les Indiens, qui est une conséquence directe du colonialisme britannique puis du régime fédéral, c'est une discrimination, une forme d'apartheid qui est institutionnelle. Une institution peut être raciste dans son fonctionnement, dans sa structure, etc. Mais la difficulté avec la notion de racisme systémique, puis vous remarquerez qu'à chaque fois que le sujet du racisme apparaît, il y a des intervenants pour imposer de force rapidement toujours le mot « systémique ». Et la difficulté, c'est que ça simplifie beaucoup. On aurait du racisme à chaque fois qu'en deux catégories de personnes, supposons des gens qui n'ont pas la même couleur de peau, il y aurait des inégalités. Ce serait forcément du racisme, mais le danger avec ça, c'est de simplifier les enjeux. C'est d'apposer l'étiquette racisme à toutes sortes de situations qui sont en fait le produit de peut-être plusieurs facteurs. Donc,
diriez-vous, comme le dit François Legault, que ce serait un peu aussi faire le débat, le procès des Québécois de façon trop large?
Non, au contraire, tu sais, sur le racisme institutionnel envers les Autochtones, moi, je pense qu'il y en a. Puis il faut pas se ménager, là. Si on participe à ça, il faut que ça cesse. Puis il faut être direct, il faut être prompt, volontaire dans la lutte au racisme. C'est juste que...
Alors, on fait quoi? On revient sur la...
Je vais juste finir là-dessus. Oui, oui. Certains groupes militants, par contre, profitent ou interviennent de manière à imposer toutes leurs théories puis leurs idéologies, puis que ça ne tient pas la route, puis ça amène notre société dans une mauvaise direction. Mais ce n'est pas une raison là, pour tout accepter toutes les théories sans réfléchir puis sans avoir de débat. Puis, donc, c'est d'où le fait que je préfère nettement, dans ce qu'on a vu vis-à-vis des Autochtones, qu'on parle de racisme institutionnel. Puis, je ne veux pas faire une bataille des mots qui n'en finira plus, mais il faut être rigoureux. Puis, moi, tant que dans ma formation politique, on est tous d'accord pour agir, protéger davantage. Les Autochtones qui sont victimes de ce racisme-là, je pense que ça va bien aller. Puis je pense qu'il faut souligner, puis on le souligne pas assez dans les médias, à mon avis, en ce moment, c'est que c'est le fruit du régime fédéral.
Ben, j'allais vous poser la question, comment on change les... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut la changer à partir d'ici? Quelle est votre solution là-dessus?
Justin Trudeau va faire des mises en scène, il va pleurer, il va se déguiser, je sais pas ce qu'il va faire. Mais est-ce qu'il va changer la loi sur les Indiens? J'en doute fortement. C'est une loi vraiment d'origine coloniale, là, d'origine... C'est pas une loi acceptable dans une société riche et démocratique, ça n'a pas de sens. Mais c'est là le problème. Et à mon avis, avec l'indépendance du Québec, ce qu'on se donne comme possibilité, c'est de dire à chaque nation autochtone, ben là, nous, on va vous traiter d'égal à égal, puis on va négocier quelque chose qui va être 10 fois mieux que la loi sur les Indiens. Donc, briser le régime fédéral pour les Québécois, c'est aussi se donner une chance de briser la loi sur les Indiens, puis d'imaginer d'autres choses, de bâtir un futur meilleur.
Maintenant, ça, pour ces communautés-là, Paul Saint-Pierre Plamondon, ça implique une forme de thérapie, de sevrage, j'allais dire, parce qu'il y a des montants d'argent qui sont impliqués là-dedans, qui sont des fois considérables. Comment c'est du gros travail sortir du cadre de la loi fédérale sur les Indiens.
Oui, mais je pense que seule l'indépendance du Québec peut nous permettre ça. Puis quand on le fera, ben oui, on aura du gros travail. Puis il y a beaucoup de lourdeur, de choses lourdes à. C'est les rapports qui se sont écrits sur l'historique vraiment désolante d'une tristesse sans nom sur le traitement des Autochtones à travers les dernières décennies. Ça sera pas simple. Là. C'est un long processus douloureux, mais il faut qu'on le fasse. Donc, moi, je vois beaucoup d'espoir dans l'indépendance du Québec comme possibilité de sortir du cadre qui ne bougera pas, qui est celui de la loi sur les Indiens, du cadre fédéral, qui est immuable et très hypocrite.
Paul Saint-Pierre Plamondon, nouveau chef du Parti québécois, on voit que vous ne dérogez pas. On va laisser d'autres journalistes vous demander comment vous ferez pour convaincre les Québécois d'une idée dont ils ne veulent plus, parce que c'est vraiment la question à la mode depuis des années. Je suis certain que vous saurez leur répondre. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous poser cette question-là. Au plaisir. Et à très bientôt. Allez vous reposer un peu.
Merci.
Dans quelques instants, un autre candidat à la direction du Parti québécois, défait, celui-là, forcément, c'est Frédéric Bastien. Alors lui, il représentait un autre point de vue, le nationalisme et les négociations constitutionnelles. On va jaser quelques instants avec lui là, pour voir comment il voit la suite des choses. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
De retour à Société. Je m'en venais comme en fondu, comment on dit ça en français, en fade-in, malheureusement. Quel mauvais... Ça commence bien mon affaire, après avoir parlé avec le candidat, avec le chef du Parti québécois. Je suis pas capable de parler français. Bon, allez, me revoici. Allons tout de suite discuter avec Frédéric Bastien, historien, dont on a beaucoup entendu parler. D'abord, bonjour Frédéric Bastien.
Oui, bonjour.
Je vous regardais hier dans la salle dans laquelle vous étiez réunis avec les autres candidats à la direction de votre parti, du Parti québécois. Vous aviez, somme toute, vous aviez l'air content. Vous n'aviez pas l'air de quelqu'un qui venait d'être éliminé au premier tour avec 10% des voix. Est-ce que c'est parce que vous considérez que vous partiez de loin ou je me trompe dans mon interprétation?
Non, je pense que vous faites la bonne interprétation. Moi, je suis celui qui est parti le plus loin. J'avais aucune, dans l'année en 2019, là, j'avais aucune au moment où cette candidature a commencé à prendre forme dans ma tête et ensuite dans les faits. J'avais aucune organisation. J'étais pas beaucoup implanté dans le parti. Et donc, au début, là, quand l'idée a commencé à circuler publiquement, il y avait peu de gens qui prenaient ça au sérieux. La candidature de Frédéric Bastien, ça semblait un peu invraisemblable, voire carrément loufoque. Et donc, il y avait plusieurs qui disaient que j'allais me faire humilier, que je ne me qualifierais même pas comme candidat officiel, voilà. Donc,
notamment parce que vous êtes assez affirmatif là, et carré, pour employer le terme que d'autres ont employé sur les questions comme l'immigration, l'identité. On vous trouvait un peu radioactif là-dessus.
Non, moi je pense qu'au contraire, c'est ça qui a porté ma candidature. Ce sont mes idées.
Ça peut être les deux. Hein? Ça peut avoir été mal vu, mais avoir été le carburant de votre candidature au final.
Moi, je suis convaincu que ça a été le carburant de ma candidature, mais ce qui m'a manqué, d'abord, si vous vous reportez à décembre 2019, janvier, février, il y avait, par exemple, toute la question de la loi 21, où j'ai été très actif. Donc, ma candidature était portée par la loi 21, notamment. Et là est arrivé, évidemment, le confinement, la COVID. Et là, évidemment, tout le monde a souffert de ça. La course au PQ est devenue un enjeu, et c'est normal, là, je comprends très bien, un enjeu secondaire, même voire très secondaire. Mais tous les candidats en ont souffert, le Parti québécois en a souffert, mais moi j'en ai souffert plus que les autres, je pense, parce que j'avais le momentum avant la crise de la COVID, et mes sorties sur la loi, mon combat pour la loi 21 était très bien vu, était très bien relayé dans les médias, et là tout d'un coup tout ça est devenu secondaire. Et donc,
oui, en même temps, c'est vrai un peu.
Ça m'a enlevé du vent dans les voiles.
Quoi. Ça semble ne pas avoir été très bon pour Guy Nantel non plus, notamment. Mais dites-moi, Frédéric Bastien, parlons de l'avenir, là, parce que là, une page vient d'être tournée. Il y a un nouveau chef au Parti québécois. C'est quelqu'un qui porte une orientation qui diverge de la vôtre. C'est-à-dire que lui, il dit, allons-y, franc jeu, directement à la réalisation d'indépendance comme objectif premier. Vous étiez celui qui disait un peu comme Jean-François Lisée 2.0 ou 3.0 parce que vous ajoutiez beaucoup de matière, mais vous disiez on fera ça dans un second mandat. Commençons par essayer de négocier avec le ou d'en découdre avec le fédéral. Est-ce que vous vous sentez chez vous pour la suite des choses au Parti québécois? Est-ce qu'on va voir une candidature Bastien à la prochaine élection, par exemple?
Oui, sur ce point-là en particulier, c'est tout à fait vrai que moi et PSPP, on a proposé des choses différentes. Mais par contre, sur la question de l'immigration, sur la question d'identité, je pense que nos visions sont très, très proches l'une de l'autre. D'ailleurs, on s'est clairement distingués, lui et moi, par rapport aux deux autres candidatures sur la question de l'immigration. Alors, écoutez...
C'est ce qui vous rapprochait, effectivement, là.
Alors, moi, je veux dire, je vais voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, il y a 2 points sur 3, en fait, même plus qu'à moitié plein. Alors, il y a 2 points sur 3 qui me rapprochent de PSPP. Donc, je pense que j'ai ma place et je vais servir le parti et notre nouveau chef loyalement. Au meilleur de mes capacités. Là. Alors, M. Plamondon a un mandat clair. C'est lui qui a gagné. Moi, je suis un démocrate. Alors, je me rallie au verdict des militants. Et moi, je pense que j'ai ma place encore. J'en suis convaincu. Et je pense que je peux être utile. Donc, je continue au Parti québécois.
Alors, on vous entendra pas dire, là, comme vous avez dit pendant la course, l'indépendance, là, ça, c'est de la parlotte. Là, pour le moment, il faut aller dans d'autres choses, de plus faisables, de plus concrètes. Vous êtes capable de composer avec la nouvelle réalité du Parti québécois, si tant est qu'elle s'en va là, vraiment. Là, ça, c'est une autre affaire, peut-être, je ne sais pas.
Ben, écoutez, moi, je pense qu'ultimement, on est tous pour l'indépendance. Là. Alors, après ça, évidemment, on n'est peut-être pas tous d'accord à 100% sur la meilleure façon d'y arriver, mais je veux dire, encore là, c'est une divergence quant au moyen, c'est pas une divergence quant à l'objectif. Donc,
alors, vous êtes en train de me dire que vous allez probablement être candidat en 2022?
Ben écoutez, j'espère bien. On verra la suite, là. C'est encore un peu tôt, mais c'est sûr que c'est dans mes plans. Et puis bon, là.
Bon, alors, chers auditeurs, vous aurez appris à cette émission d'abord que Frédéric Bastien était éventuellement candidat à la direction, et maintenant vous apprenez qu'il sera candidat. Peut-être.
À la direction.
Oui, non, à l'époque, au début, je parle de la course à la chefferie, là. Vous nous avez pas mal annoncé ici que vous seriez candidat il y a plusieurs mois déjà. Et là, maintenant, on vous entend pas mal nous dire que vous serez candidat à la prochaine élection. On se fait une fierté de tous ces scoops.
Ben oui, écoutez, puis de toute façon, je pense que M. Plamondon hier a été aussi très clair dans
il vous a tendu la main.
Mm-hmm. Voilà, il m'a tendu la main et cette main, évidemment, j'en suis très heureux et donc c'est très généreux de sa part, quand même,
ainsi qu'à Guy Nantel et bien sûr à Sylvain Gaudreau.
Donc voilà, alors moi je pense que M. Plamondon justement veut rassembler le parti, donc j'en conclus de façon très claire qu'il va vouloir, il veut faire une place aux autres candidats qui n'ont pas gagné. Donc, je pense bien qu'on va avoir, on a une marge très bonne pour s'entendre, j'en suis convaincu.
Frédéric Bastien, candidat défait, mais heureux à la chefferie du Parti québécois, probablement futur candidat aux élections de 2022 pour ce même parti. Ça nous fera plaisir de vous recevoir à nouveau pour que vous nous l'annonciez de façon plus officielle. Mais merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, ce midi.
Merci de m'avoir invité.
Au plaisir.
Au revoir.
Dans un instant, chers auditeurs, les réactions de Frédéric Bérard, notre fidèle chroniqueur du journal Métro, notre fidèle collaborateur, dis-je bien ici, ainsi que Frédéric Lapointe, ex-candidat du Parti québécois. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, nous complétons le trio des Frédéric avec deux autres Frédéric. J'ai nommé Bérard. Bonjour, Frédéric Bérard.
Bonjour, Nick Payne.
Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique et ex-candidat du Parti québécois. Je ne lui demanderai pas à lui s'il sera candidat bientôt, mais on présume que oui. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Bonjour. Tiens, d'abord vous, puisque vous êtes la visite, là, vous êtes un peu plus rare parmi nous que Bérard à l'autre bout de l'autre ligne. Qu'est-ce que vous retenez du résultat d'hier au Parti québécois comme péquiste? Là?
Ben, que les campagnes comptent. Clairement, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait la campagne la plus vigoureuse dans un contexte difficile. Il a convaincu davantage de gens de financer sa campagne d'ailleurs, et il ne partait pas avec les devants. Donc, je pense que la leçon, là, au-delà des qualités personnelles de chacun, je pense que la leçon, c'est que de s'organiser, de livrer la marchandise, de faire des efforts dans une course à la chefferie, ça peut faire la différence.
Est-ce que ça peut faire... Bon, on le sait que ça peut diviser. Franchement, je ne vous poserai pas aussi naïvement la question. Est-ce qu'actuellement, il y a autour de vous des claquements de porte, des gens qui déchirent leur chemise ou leur carte de membre en disant « c'est pas mon candidat, moi je m'en vais ».
Oui, il y en a, c'est le cas à chaque course à la chefferie. Les péquistes sont de grands émotifs. Mais je pense qu'assez rapidement, on va se rendre compte que l'énergie dégagée par l'équipe qui a remporté la course va compenser grandement là, pour les quelques départs et les quelques désaffections inévitables là, dans le cadre d'une course à la chefferie.
Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe ne nous a pas spécifiquement parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je sais pas, j'ai l'impression que vous, ça vous tente. Il me semble que vous avez une opinion sur lui. Dites-nous donc ça. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord là, de cette élection-là?
Ben,
Je veux dire, moi, je vous trouve un peu naïf, je dois bien dire. Et il y a une expression que mon père m'a apprise qui est la suivante. Tu sais, quand un gars veut se convaincre, vous me faites penser à ça.
Moi, ça? Vous parlez de moi, là?
Je parle de vous. Je parle de ce que je comprends, c'est pas nécessairement piqué, Nick Payne, mais...
Ah, ben non. Non, moi, je pose des questions. Écoutez, peut-être que je les pose naïvement.
Je veux pas faire de procès d'intention de personne, mais... Mais non, je parle de manière générale, je parle du péquiste, j'allais dire moyen, mais il n'y a pas de péquiste moyen, là, je le dis sans aspect péjoratif, mais non.
Assez de préambule, là, répondez donc à la question.
Sérieusement, vous croyez vraiment que Saint-Pierre Plamondon est devenu souverainiste comme ça, pif paf pouf? Vous pensez vraiment que ce gars-là, après 6 mois, c'est ah ben finalement l'identitaire, ça a bien de l'allure?
Ah ben moi je crois rien, là, je peux pas y poser 50 fois la question est-ce qu'on devrait vous croire, mais je lis, j'écoute. Bon, c'est ce qu'il dit.
Avec Saint-Pierre Plamondon chez Stegman Elliott à l'époque, puis déjà on pouvait voir tout de suite que le gars veut faire de la politique, mais pour lui faire de la politique, c'est l'image et c'est comment je convainc d'eux, mais les convictions, franchement, moi, j'y ai jamais trop cru. Ce gars-là, quand il est parti orphelin politique, au mois d'avril, il y a des articles dans Le Devoir qui sont parus disant Plamondon, un nationaliste. Il a appelé le journaliste, puis je connais le journaliste, il a dit, voyons donc, tu peux pas écrire que je suis nationaliste, je suis pas nationaliste, c'est quoi ça, cette affaire-là?
Ça, c'était en 2016, ces environs-là, là, 2015, 2014, quelque chose comme ça, oui.
Un instant, 2 mois après, à tout péter, il était dans la course à la direction du PQ. Le gars lance une patente à gosse qui s'appelle orphelin politique, donc on peut présumer que le PQ fait pas son affaire, et là, tout à coup, hop, ben finalement, ça va faire mon affaire, et là...
Oui, mais ça, Frédéric Bérard, c'était un changement de direction qui est plus facile à justifier, c'est-à-dire qu'on dit « je suis orphelin politique », hop, Pierre-Carl Péladeau s'en va et là, l'espace s'ouvre et là, je dis, bon, ouais, je vais y aller pour essayer de changer les choses dans le sens où moi, je l'entends. Cette fois-ci, par contre...
Dans son livre sur les orphelins politiques, Nick Payne, où il dit que essentiellement, les souverainistes sont des harceleurs puis retardent le progrès.
Ah oui, mais c'est ça. Ça, c'est le vrai... Oui, ça, c'est le vrai virage. Là. Demandons à Frédéric Lapointe ce qu'il en pense. Est-ce que vous l'avez cru, vous? On a beaucoup vu ça, Frédéric Lapointe, ces derniers jours, des militants des autres, des équipes des autres candidats dire, et même Michel David dans Le Devoir, notamment, dire, poser la question, est-ce qu'on peut vraiment croire aux loyautés successives de Paul Saint-Pierre Plamondon? Vous, est-ce que vous pensez... Alors, je vais poser la question naïvement, c'est ce que me dira Bérard, mais est-ce que vous pensez que Saint-Pierre Plamondon a cheminé et qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit aujourd'hui?
Alors, j'ai pas travaillé il y a 12 ans chez Stockman Elliott avec Paul, mais ça fait une bonne dizaine d'années que je l'accompagne dans son cheminement, hein, pour le dire ainsi. Et oui, il y a quelques prises à conscience, quelques virages, et je pense avec le recul, on se rendra compte qu'il a réalisé les synthèses nécessaires. Oui, une certaine rénovation de l'image. Je pense que tous les partis en ont besoin. Je pense que le Parti québécois en a besoin. Mais il a aussi compris qu'après avoir joué un rôle de mouche du coche, de critique, que lorsque vient le temps d'exercer du leadership, ben oui, on a les idées qui ont pu nous accompagner à un moment ou à un autre. Hein. Il se décrit comme un grand promeneur solitaire. Mais à un moment donné, il faut réaliser une synthèse, rassembler les gens. Et c'est ce qu'il a réussi dans cette campagne.
Frédéric Bérard...
Je parle de la campagne. Là. Je parle du fait que ce gars-là, il a vu l'épiphanie quand Péladeau est débarqué. Il dit qu'il est devenu souverainiste quand il a travaillé pour certains, dans le cadre du scandale des commandites, là, pour certains certains contributeurs du PLC avec les mains sales, mais ça, c'est pas vrai, parce que ça s'est passé en 2007, 2008, 2009, et il est devenu souverainiste en 2016 quand Péladeau est parti.
Non,
ça, c'est de la prime.
Non,
on a dit aussi la chose suivante sur l'identitaire. Quand
non, 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 juste un instant, Frédéric Lapointe, laissez Bérard se fâcher encore à peu près 10 secondes, puis on passe à vous après.
Quand il est passé à la campagne en 2016, là, il avait même fait un débat avec Bocoté, des images de gants de boxe. Il aime ça, les images de gants de boxe, Plamondon. Et là, il voulait knocker à Bocoté sur l'identitaire. Or, là, aujourd'hui, regardons ça, là, il est encore plus caquiste les caquistes, il veut baisser encore davantage les seuils d'immigration, couper des trucs aux anglophones côté langue. Il est devenu accommodement raisonnable. Ben là, le racisme systémique cet été, il refusait de le reconnaître. Il disait que ça allait encourager le racialisme ou je sais pas quelle autre bêtise.
Ah ben c'est ce qu'il a dit encore aujourd'hui.
Le racisme systémique, je veux dire, moi ça me dérange pas. Amusez-vous avec lui, mais vous allez avoir un fun fou parce que quand bon, le PQ va aller se planter dans le mur, il va essayer de négocier une espèce de bourrisme machin.
Bon, vos 10 secondes sont longues, mais très très brièvement, Frédéric Lapointe, parce qu'il faut qu'on passe à un autre sujet important tout de suite.
Oui, bien, on constate qu'à différents moments de son évolution politique, il a pu tenir des discours différents. Mais moi, dans mon rapport de proche en proche avec lui, je peux vous dire que ça en prend quand même beaucoup pour le faire évoluer, le faire changer d'idée. Mais au final, c'est quelqu'un qui est capable de calculer, qui est capable d'évaluer ce qui est nécessaire et qui va faire beaucoup de bien au Parti québécois. Je le dis non seulement au plan de l'image, mais également sur le plan des idées.
Ah oui, mais là, vous êtes péquiste, vous, évidemment, vous allez nous dire ça, mais ça fait rien. On va voir pour la suite des choses. Et dites-moi, pendant qu'on est avec vous, Frédéric Lapointe, changeons de sujet. Le remplacement de la ministre qui s'occupe des affaires autochtones au Québec, dont bêtement le nom m'échappe complètement, c'est dire à quel point on n'a pas beaucoup entendu parler d'elle, et son remplacement par Yann Lafrenière, un policier. Policier néanmoins qui est allé dans le cadre de l'enquête à Val-d'Or à la rencontre des communautés autochtones là-bas. Ça fait partie des raisons qui justifient sa nomination, semble-t-il. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on sera capable de passer par-dessus ce qui semble être un problème d'image au minimum? Parce que là, évidemment, les Autochtones et encore plus les gens qui critiquent la CAQ souvent à partir de la gauche, mais pas seulement, et qui disent franchement, nommer un policier pour s'occuper de ça, c'est pas du meilleur goût.
Moi, je pense que les chefs autochtones sont beaucoup plus sages que les militants pro-autochtones et les non-autochtones en particulier. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accueilli le nouveau ministre et se sont probablement rendus compte que de nommer un policier dans la fonction de ministre des Affaires autochtones, comme gouvernement, c'est s'imposer une obligation de résultat. Alors, ils vont l'attendre à la table de discussion, à la table de négociation. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est tous les militants de la vertu autoproclamée, ben, ils vont se désoler du fait que c'est une insulte aux Autochtones que d'avoir nommé une police, là. Mais cette chorale-là n'a aucune espèce de signification politique. Ce qui compte, c'est qu'on a un gouvernement qui s'est imposé une obligation de résultat et qui a nommé un ministre compétent.
Frédéric Bérard.
Moi, je dois faire partie de la chorale. Moi, je trouve
que
j'ai parlé à plusieurs amis autochtones hier qui voient ça comme de la provocation pure et simple. Là, Yann Lafrenière a passé sa vie à défendre l'antithèse du racisme systémique. Je veux dire, il n'est pas seulement flic, il est porte-parole des agissements des flics. Mais une fois qu'on a dit ça, par contre...
Il était porte-parole du SPVM, c'est ça?
Oui, exact. J'ai remarqué quelque chose, cela dit. Quand François Legault nomme un nouveau ministre...
C'est pour remplacer une femme par un homme? C'est ça que vous allez me dire?
Non, il y a un peu de ça, mais je veux même pas aller là. C'est pas là que j'allais du tout. Mais il accompagne souvent cette nomination-là avec un budget intéressant pour pouvoir réaliser certaines choses assez rapidement. Ça, c'est, je pense, une des qualités de Legault. Et donc, là-dessus, je vais être obligé de rejoindre Frédéric en quelque sorte. Moi, je trouve que le symbole est absolument percutant et péjoratif, mais en même temps, on verra, on va quand même donner une chance au coureur. Je ne serais pas surpris qu'il se ramasse avec le 400-500 millions nécessaires dont parlait le rapport de la commission Vient pour pouvoir mettre à terme certaines des recommandations que Sylvie Damour, là, c'est le nom que vous cherchiez.
Ah, voilà.
Elle n'a absolument rien fait. On ne savait même pas qu'elle existait, là. Donc, probablement, écoute, Lafrenière, il ne peut pas faire pire que ce qu'on s'attend. On s'entend bien. Il peut juste nous surprendre, par définition. Donc, là-dessus, je vais laisser la chance au coureur, puis on verra bien.
Frédéric Lapointe, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'il advient de la fameuse parité homme-femme au gouvernement à travers tout ça? Est-ce qu'on, depuis les débuts du gouvernement Legault, ce sont des femmes qui se font tasser, remplacer par des hommes forts, hein, des hommes qui ont un profil assez reluisant, des gens qui avaient été pressentis pour être ministres au départ, souvent, et qu'il ne l'était pas. C'est le cas de Lafrenière, en tout cas. Là. Est-ce qu'on commence par se donner une parité de façade et par le fait même, on nomme des personnes qui n'auraient peut-être pas dû être nommées? C'est terrible comme question. Mais c'est vous qui êtes pris avec. Répondez-nous donc.
On se souvient que la Coalition Avenir Québec n'était pas le parti qui comptait le plus grand nombre de femmes candidates. Et donc, ils n'ont pas non plus la plus forte proportion de femmes élues. À partir de là, c'est un peu comme le Canadien de Montréal. Si on a un pas bon troisième trio et un pas bon quatrième trio, bien, ça se peut qu'on soit obligé de faire jouer les deux premiers trios. Et si parce qu'on a principalement recruté des hommes comme candidats, ce sont ceux-là qui ont davantage d'expérience, davantage de capacité, ils sont davantage ministrables, mais que voulez-vous? À un moment donné, on va travailler avec les joueurs qu'on a et j'espère que le gouvernement va continuer à nommer les meilleures personnes pour régler les dossiers indépendamment de leur sexe.
Frédéric Bérard, là, vu que vous m'avez accusé d'être péquiste totalement faussement, à mon tour de vous dire que vous êtes sans doute de gauche et favorable à la parité homme-femme en toutes circonstances, est-ce qu'on a poussé le bouchon trop fort? Qu'est-ce qui arrive là?
J'assume parfaitement l'étiquette. Oui, effectivement, je suis en faveur de la parité homme-femme, ce qui peut amener certains défis. C'est parce que là, on dit, parce qu'on ramène ça sur la question du sexe, comme si Sylvie Damour, elle est là parce qu'elle est femme. Mais non, mais il y en a d'autres, des ministres poches dans ce gouvernement-là, comme il y en a dans pas mal de gouvernements. Il y en a qui sont vraiment bien poches. Tu sais, Jean-François Roberge, là, c'est pas mal, tant qu'à moi, là, la personnification d'être poche, il est encore là. Est-ce que c'est parce qu'il est gars ou pas gars? Je veux même pas aller là, c'est pas le point. Mais là, on ramène ça à Damour, puis on est obligé de la nommer parce qu'elle est femme. Bon, bref, tout ça pour dire que dans chaque gouvernement, il y a des maillons faibles. Damour, de toute évidence, c'en était un.
Donc, c'est pas la faute de la volonté de parité, selon vous. Là. C'est pas la théorie la présomption d'incompétence.
Ben, je veux dire, ça, c'est un peu la conclusion facile, parce que si vous êtes capable de me faire la preuve que les ministres hommes de ce gouvernement-là sont nécessairement beaucoup plus solides que les ministres femmes, OK, mais vous ne serez pas capable de faire ça, parce que d'un côté, vous avez par exemple Sonia Lebel, qui, à mon sens, vaut pas mal n'importe quel ministre dans ce gouvernement-là. Vous avez Jolin Barrette, Roberge et compagnie, là, qui ont quand même pas inventé l'eau chaude politiquement, là, on va s'entendre. Donc, une fois qu'on a dit ça, je sais plus, ramener ça sur la question du sexe, je ramènerai
en tout cas,
ça
vous,
sur la question de la compétence.
Frédéric Bérard, vous n'avez pas inventé l'eau tiède, c'est pour ça qu'on vous appelle. merci à vous deux, les deux Frédéric, d'avoir été avec nous ce midi. On va continuer sur le thème du Canadien de Montréal et de son repêchage jamais francophone, jamais québécois avec Bob Sirois dans un instant. Merci à vous deux.
Salut.
À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, de retour à Société, merci d'être toujours à l'écoute, chers auditeurs. Alors, je vous présente notre prochain invité. Il est l'auteur notamment du livre « Le Québec mis en échec », paru aux éditions de l'Homme en 2009. C'est un livre c'est un dossier, en fait, très étoffé là, sur le sort singulier des joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. Les repêche-t-on moins? Est-ce qu'on leur fait un traitement différent? C'est ce que ce livre disait, et un traitement différent pas nécessairement à leur avantage, hein, vous l'aurez compris. Il a publié d'autres livres aussi, « Bagages en cavale » ainsi que « Perles de bagagiste », le premier en 2012 aux éditions de l'Homme et l'autre aux éditions Le Duc. Ce sont des... Pourquoi les bagages? Parce que Bob Sirois, c'est mon invité, a aussi une entreprise, alors ça c'est singulier pour le coup, une entreprise qui rapportait les bagages perdus à des voyageurs. Mais avant tout ça, Robert Bob Sirois, de son nom de hockey-là a joué pour les Capitals de Washington, les Flyers de Philadelphie très brièvement, mais les Capitals à la fin des années 70, on parle d'une saison de 29 buts, notamment vers 79, si je ne m'abuse. Ça, c'était avant que sa carrière prenne fin là, des suites d'une très vilaine blessure. Mais il est avec nous aujourd'hui, d'abord pour qu'on discute un peu du repêchage des Canadiens et de cette absence étonnante, ou pas, de Québécois francophones. Bonjour Robert, Bob, Sirois.
Bonjour Nick, ça va bien?
Ben oui, vous aussi, merci d'être avec nous ce midi, c'est très apprécié. Et bien sûr, on parlera dans un instant de votre plus récent livre là, qui s'appelle « Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur » ou je pense que ça s'appelle « Pour une équipe nationale du Québec ». Pardon si j'abîme votre titre un peu, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est un livre qui est un vibrant plaidoyer. D'abord, un dossier hein, sur la question d'éventuelles équipes nationales pour le Québec, d'équipes sportives nationales, mais aussi un plaidoyer, un vibrant plaidoyer en faveur de telles équipes. Vous êtes d'ailleurs fondateur d'une fondation là, du même nom qui travaille à cet objectif-là. Mais revenons un instant au repêchage du Canadien. Ça fait les manchettes, ça fait jaser parmi les amateurs de sport et les journalistes sportifs, comme à chaque année. Qu'est-ce qui se passe, Bob Sirois? Est-ce que le Canadien évite les Québécois ou est-ce qu'il applique tout simplement le principe de ben, je prends le meilleur disponible, point final, peu importe d'où il vient?
Écoute, ça fait plus de 20 ans que le Canadien agit de cette façon-là. Et puis, ce qui m'a surpris cette année, c'est parce que les dernières années, en repêchant pas, j'ai dit cette année, ils vont se forcer un peu plus. Parce qu'ils savent que les médias sont sur leur dos, les fans sont sur leur dos, et puis ben pas les fafans. Les fafans, c'est des inconditionnels du Canadien. Là.
Ah ben j'allais vous poser la question, là. Les fafans, comme les nomme Régent Tremblay, notamment. Tremblay, ouais. Ouais. Alors, parce qu'eux, quand on leur demande, seriez-vous en faveur, par exemple, d'équipe nationale du Québec, ou est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de Québécois dans le Canadien? Ils répondent tout le temps, « Ah, je ne veux pas faire de politique avec ça, c'est pas important. L'important, c'est le talent, on prend le meilleur, point final. Pourquoi? »
Pourtant, c'est pas ce que Serge Chavard a toujours dit. Et puis, qu'à talent égal ou à talent comparable, et puis là, on parle dans les rondes à partir du milieu de la deuxième ronde, là, on est rendu au 45e, 46e choix. Là. Mm-hmm. Et puis, il n'y a pas grande différence entre un 45e et un 60e choix, puis il n'y en a pas trop entre un 60 puis un 80, puis etc.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on pourrait très bien prendre le Québécois qui est au 60e plutôt que le quelqu'un qui vient d'ailleurs qui est au 48e rang, disons. Là.
C'est à peu près ça. C'est ce que Serge Chavard a toujours fait. Et puis, c'est ce qu'il avait demandé à Bergevin de faire qu'à talent égal ou à talent comparable, va chercher des Québécois.
Il doit être déçu, là, Serge Savard, non? Parce que c'est vraiment pas ça qui se passe.
Énormément. Et puis,
vous lui parlez, à Serge Savard?
Pas personne interposée, mais on va se parler la semaine prochaine.
Ah bon? Ah bon?
Suite au livre que j'ai publié. Là. Mm-hmm. Et puis, je sais qu'il n'est pas trop de bonne humeur. Il enrage à l'intérieur. Bon, cela dit...
Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous répondriez à ces... Pourquoi on devrait...
Il n'y en a pas de Québécois parce que...
Non, mais pourquoi on devrait en repêcher, en fait? Qu'est-ce que vous répondez aux fafans là, qui vous dit...
T'as les hockeyeurs québécois, eux habitent ici tout l'été à l'année longue. Un hockeyeur québécois, c'est porter l'uniforme du Canadien, être chez eux, ses amis, sa parenté, ses fans... va toujours donner 100% et plus. C'est pas des gladiateurs, c'est pas des gars qui viennent à contrat et puis ça va pas ici, ça va ailleurs. Ils ont tous quelque chose à prouver ici. Alors là, c'est certain que t'as deux styles d'hockeyeurs, t'as deux genres d'hockeyeurs. T'as les exceptionnels, qui sont pas nombreux. Ensuite, t'as ceux qui forment l'équipe. Le cœur de l'équipe. Et ton cœur de l'équipe, qu'on le veuille ou non, c'était les joueurs de deuxième, troisième, quatrième trio. Et puis, eux, les Québécois, c'est malheureux, mais dans la Ligue nationale de hockey, tout ce qu'on veut des joueurs québécois, c'est les exceptionnels. Quand le Canadien, quand les Nordiques étaient là, il y avait un concours entre le Canadien et les Nordiques pour celui-là qui était pour repêcher le plus de Québécois, d'avoir le plus de Québécois sur son équipe. Parce que la nation québécoise s'identifiait à leurs athlètes. C'est des joueurs qui n'étaient pas nécessairement des exceptionnels.
Alors c'est ça, vous êtes en train de me dire, c'est un peu aussi la thèse qui était dans votre livre de 2009, c'est-à-dire dans la Ligue nationale, on prend les Québécois un peu comme des Suédois ou des Russes lorsqu'ils sont exceptionnellement bons. Pour le reste, pour le noyau de l'équipe, pour les ce qu'on appelle parfois un peu péjorativement les plombiers, là, on va chercher des bons Américains et des bons Canadiens de l'Ouest.
Même pas des Américains, on va chercher des good old Canadian boys. C'est dans les 900 joueurs qui ont porté l'uniforme des équipes de la Ligue nationale cette année, là. Plus de 50% de ces joueurs-là, c'est des good old Canadian boys. Alors, on ne fera pas croire que 500... quelques joueurs de hockey du Canada, sans compter les Canadiens, là, sont tous des exceptionnels. Là. Mais on forme nos équipes. La base, c'est des joueurs canadiens. Et on essaie de trouver les vraiment les exceptionnels, qu'ils soient russes, américains, européens, whatever.
Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'à Montréal, on devrait casser cette méthode-là parce qu'il y a l'élément de d'identification, de fierté nationale qui joue. C'est
puis,
ça?
Ça va plus loin que ça, là, parce que moi, les conclusions de mon premier livre, c'était bien simple. C'est pour donner de la visibilité à nos hockeyeurs québécois, parce qu'ils n'en ont pas. Il faudrait qu'on ait nos propres équipes Québec junior. Tu vois, l'Afghanistan, le Kazakhstan, la Lettonie, la Finlande, ils viennent tous montrer leurs 23 meilleurs hockeyeurs juniors à la face du monde aux dépisteurs et aux gérants généraux de toutes les équipes qui sont là lors du championnat du monde junior à chaque année. Le Québec, mais malheureusement, on en a un, deux ou trois sur l'équipe Canada.
Parce qu'on n'a pas d'équipe nationale. Alors là, on recoupe le sujet de votre nouveau livre. Je le donne le titre à nouveau. Là, c'est Équipe nationale du Québec, oui.
Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire. Mm-hmm. Alors ça, c'est pas seulement pour le hockey, c'est pour tous les sports. Mais le hockey, j'en parle beaucoup là-dedans aussi.
Alors, parlons de votre livre. Là. J'ai fait le tour. Vous commencez par nous donner une espèce de dossier avec une tonne d'informations qui touchent ce sujet-là. Des articles de journaux, notamment du journaliste Martin Leclerc, qui avait parlé en 2010 de cette équipe qui n'existe pas, du fait que le Québec est la seule des quelques nations du monde qui produisent de grands joueurs de hockey, qui n'a pas son équipe nationale pour se faire valoir, finalement. Vous référez notamment à Pierre-Éliott Trudeau qui avait dit que la fameuse série contre les Russes dans les années 70 avait été un facteur d'identité, de rassemblement national plus fort que n'importe quel geste politique. Vous parlez de Pascal Boniface, cet intellectuel français qui parle de ces nations qui demandent à être intégrées dans les fédérations de soccer comme on veut être aux Nations Unies ou ailleurs, parce que ça montre à quel point c'est important, cette représentation par le sport. Vous prônez la même chose pour le Québec et je vous pose une question, Bob Sirois. Pourquoi ça ne marche pas? Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas ici? Est-ce que c'est parce qu'on n'essaye pas ou il y a quelque chose qui bloque quelque part?
Ben, c'est parce que, nos politiciens, nos intellectuels n'ont jamais été conscientisés sur la valeur d'avoir des équipes nationales qui sont un véhicule à l'international.
Parce que vous dites qu'on peut le faire, comme une trentaine de nations non souveraines ont déjà des équipes.
Il y en a 35. Pas besoin d'être un pays pour avoir des équipes nationales. Il y a 35 États-nations comme nous qui ne sont pas fédérés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aux Nations Unies, ne sont pas reconnus comme un pays, mais sont reconnus comme une nation, tout comme le Québec est reconnu comme une nation. L'UNESCO. On a même un siège là-bas. Tu vas me dire qu'on ne dit pas grand-chose là-bas, mais c'est pas grave, on est reconnu. Écoute.
On pourrait probablement s'exprimer un peu plus sur la glace, oui, ça se peut.
Mais je vais revenir aux Canadiens de Montréal. avant de retomber là-dedans.
Ben, il nous reste moins de deux minutes. Alors, allez au plus, ce qui compte le plus pour vous.
Les Canadiens de Montréal, en 80, leur dernière Coupe cette année, plus de la moitié de l'équipe était des Québécois. Et ça monte fait monter la fierté nationale patriotique des Québécois, le nationalisme, la fierté des Québécois. Il y avait un référendum aussi à la même époque. Et ça l'a passé très proche. Pour les fédéralistes, les politiciens fédéralistes, une équipe de hockey comme le Canadien de Montréal, qui a plein de Québécois sur l'équipe, mais ça dérange bien gros les fédéralistes parce que c'est la montée de la fierté des Québécois. Et des équipes nationales, ben c'est exactement ce que ça va faire. Et dans tous les sports. Et puis, on a le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le pays ou la nation qui a créé un sport. Le hockey vient du Québec. La réglementation était faite à l'Université McGill en 1875. Toutes les nations qui ont créé des sports, que ce soit le rugby, le soccer, etc., ne sont même pas des pays. Ce sont des nations comme le Québec. Ils ont utilisé le droit d'aînesse, c'est-à-dire la naissance de ce sport-là, pour être accepté par les fédérations.
Alors, le message est lancé, Bob Sirois, parce qu'on n'a plus de temps, à nos hommes politiques qui, clairement, ne font pas de ça une priorité pour le moment. On vous souhaite du succès dans votre...
Saint-Pierre Plamondon, ça va être sur sa plateforme, et puis il en veut absolument.
Il s'est engagé là-dessus, vous avez raison.
Oui.
On passe le mot à Frédéric Bérard. Ben, écoutez, Bob Sirois, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous, puis on vous recevra une prochaine fois pour votre prochain livre.
On se reparlera de ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de détails dedans. Quand tu auras 10-15 minutes, je te remercie beaucoup de m'avoir invité.
C'est un plaisir. Je prends ça comme un ordre. C'est parfait. Okay. Au plaisir.
Bye-bye.
Chers auditeurs, vous entendiez la voix de Bob Sirois, ex-joueur des Capitals de Washington, maintenant promoteur de l'avènement d'équipe nationale pour le Québec. Son dernier bouquin, Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire, est maintenant en vente dans toutes les bonnes librairies, sans doute. Ou en tout cas, informez-vous, vous allez le trouver. Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Société.